vous appréciez cette émission, alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Restons courtois. Marc Hainaut.
Et bonsoir à nouveau, chers auditeurs. Bienvenue à nouveau dans l'émission Restons Courtois du jeudi, l'émission animée par Valeurs Actuelles sur les ondes de Radio Courtoisie. Je suis toujours avec Vendry de Yerpel et Thomas Morel. Nous étions avec Jean-Frédéric Poisson, auteur de La dictature du bien aux éditions du Verbe Haut. Et nous accueillons Nicolas Pouvreau-Monti. Bonsoir, Nicolas.
Bonsoir.
Vous publiez Immigration, mythe et réalité. On rappelle que vous êtes le directeur de le cofondateur et directeur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie. Au fond, ce livre, c'est une somme de tous les travaux, de toutes les observations qu'a pu faire votre observatoire ces dernières années.
Effectivement, je condense dans ce livre un certain nombre des travaux que nous avons pu mener depuis maintenant 5 ans, et notamment depuis 2 ans de façon poussée. Avec peut-être deux différences. D'abord, il y a évidemment des choses nouvelles. Sûr. Et puis surtout, j'ai essayé de donner dans ce livre une vision aussi claire et accessible que possible de ces sujets qui sont techniques par nature. Parfois, nos études sont techniques et il vaut mieux qu'elles le soient. Là, l'idée, c'est vraiment de permettre au plus grand nombre de connaître les faits sur cette question qui nous concerne tous.
Est-ce qu'on peut... C'est ça qui est très appréciable dans votre livre, c'est que justement, vous prenez ce sujet ô combien polémique, ô combien inflammable, et vous le prenez de manière extrêmement distanciée, extrêmement neutre, avec tout est sourcé, tous les chiffres, évidemment, on fait l'objet de beaucoup de recherches. Je voulais juste vous faire revenir sur une observation politique qui a été faite il n'y a pas longtemps. On a eu 13 lois sur l'immigration en 9 ans et aucune n'a réglé le problème. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation ?
Oui, c'est certain. On pourrait même dire qu'on a eu 30 lois sur l'immigration en 40 ans. Ce serait tout aussi vrai.
Je précise que cette observation est de Benoît Hamon, ancien ministre de l'Éducation nationale de François Hollande et candidat à l'élection présidentielle. Justement, pourquoi, d'après vous, on ne parvient pas à en sortir ?
Bah écoutez, je pense qu'il y a différentes raisons. D'abord, il y a dans les flux migratoires tels que nous les connaissons aujourd'hui, une part importante d'entrées sur lesquelles l'État a accepté de se laisser dessaisir de la capacité à choisir. C'est le cas des grandes masses de l'immigration familiale qui sont protégées à peu près à tous les niveaux possibles, constitutionnels, européens. C'est le cas plus encore du droit d'asile, sur lequel ni le gouvernement, ni le Parlement, et encore moins les Français directement par référendum, n'ont de mots à dire, ni quant au nombre, ni quant au profil des demandeurs qui ont accès à l'asile en France. Donc il y a ça d'une part. Et puis d'autre part, dans ce cadre très contraint, nos responsables politiques ont fait le choix de privilégier l'augmentation de certains canaux d'immigration sur lesquels il leur reste encore une main. L'exemple type, c'est l'immigration étudiante, on pourra en reparler éventuellement, qui n'a pas vraiment contraintes constitutionnelles ou européennes. Il y a un mélange de responsabilités actives des décideurs politiques, c'est le cas sur les flux étudiants, et aussi de responsabilités passives par le fait d'avoir laissé le pouvoir s'évaporer. Et je pense précisément que si le sujet est aussi brûlant que vous le décrivez justement, c'est en partie parce que on l'a laissé être enveloppé dans un coton de mythes rassurants, d'idées préconçues et tranquillisantes, mais dont les Français sentent bien confusément depuis des années qu'elles ne correspondent pas à la réalité de ce qu'ils peuvent expérimenter.
Au fond, ce sujet est gênant aussi parce que ce serait admettre de la part des politiques qu'ils ont été dépossédés du sujet et qu'ils ne sont plus maîtres des vannes, en fait.
Oui. Et puis c'est admettre qu'il y a une tension démocratique difficilement soutenable. Où d'une part, les Français n'ont jamais été aussi opposés à l'immigration dans son ampleur et ses natures contemporaines, mais d'autre part, il n'y a jamais eu autant d'immigration en France qu'aujourd'hui. Et si cette question n'est pas traitée électoralement, démocratiquement, par les voies parlementaires classiques, comme elle devrait l'être dans les années qui viennent, il est évident qu'on va vers des tensions très fortes qui aujourd'hui existent à bas bruit, mais qui pourraient demain prendre des formes plus visibles.
Vous avez parlé du droit d'asile justement, et c'est peut-être un des chiffres, en tout cas je pense qu'il y avait un chiffre à retenir de votre ouvrage, ce serait notamment celui-là, un demi-milliard d'individus éligibles au droit d'asile en France. Alors vous employez cette expression, des transgenres du Pérou aux albinos du Nigeria, on pourrait même ajouter récemment les homosexuels du Sénégal. Effectivement, c'est peut-être l'angle mort, c'est que dans l'absolu, ce que vous dites concrètement pour que les gens vraiment saisissent bien, c'est que tous ces gens ont le droit de venir en France.
Absolument, c'est-à-dire que ce demi-milliard de personnes, 580 millions, remplissent objectivement, au regard de leur état de vie, les critères qui leur permettraient d'obtenir soit le statut de réfugié, soit une autre forme du droit d'asile en France. C'est-à-dire que si demain, ces personnes mettent le pied sur le sol français et déposent une demande d'asile, elles obtiendront l'asile, sans mentir, sans tricher, sans limite quantitative non plus, parce qu'il n'existe aucune limite quantitative activable dans l'état actuel de notre droit, et sans que le politique, à aucun moment, n'ait un mot à dire. Pour l'instant, les homosexuels du Sénégal ne sont pas encore un groupe social collectivement éligible au statut de réfugié, mais au regard de l'évolution récente de la législation, il est probable que ça arrive. En revanche, les homosexuels du Guatemala, du Togo, du Congo, de la Birmanie sont collectivement éligibles à l'asile. Vous avez cité d'autres exemples. Hein. On pourrait parler des femmes somaliennes, on pourrait parler des Palestiniens de la bande de Gaza, on pourrait parler des enfants congolais accusés de sorcellerie devenus adultes. On voit que c'est une sorte de flux autoporté qui est à la fois le canal d'immigration qui a le plus augmenté ces dernières années. Il y a maintenant 700 000 étrangers bénéficiaires de l'asile en France. Je ne parle pas des déboutés ni des demandeurs, hein, vraiment bénéficiaires. 700 000, c'est un nombre qui a triplé en 10 ans. C'est un canal qui implique par ailleurs des catégories, des types d'immigration sur lesquels les questions de l'intégration se posent de manière très vive. La première nationalité des bénéficiaires de l'asile en France, ce sont les Afghans. Et on imagine difficilement distance culturelle et anthropologique plus large à parcourir entre deux sociétés qu'entre l'Afghanistan d'une part et n'importe quelle société européenne contemporaine d'autre part.
Alors, c'est peut-être ça aussi qui est incroyable. C'est vous avez vu cette décision en Espagne ou décision politique de Pedro Sanchez de régulariser plusieurs centaines de milliers de clandestins. Au fond, on a l'impression que c'est peut-être le seul endroit où le politique a encore de la marge, c'est qu'il peut choisir de naturaliser ou non. Mais en revanche, il est impuissant à interdire, à fermer les frontières. Mais par contre, il peut décider juste de les régulariser. C'est peut-être sa seule marge de manœuvre, si
Oui,
on devait grossir un peu le
et dans le
trait.
cadre européen actuel, un gouvernement très ouvert sur le plan migratoire, comme l'est le gouvernement espagnol, même quand il est très isolé dans l'espace Schengen, ce qui est le cas aujourd'hui du gouvernement espagnol sur ce sujet, impose ses décisions et les conséquences de ses décisions à l'ensemble de la zone. Parce que un titre de séjour accordé dans un pays de l'espace Schengen, ça permet de circuler librement dans l'ensemble de la zone. Ça ne permet pas, en théorie, de s'établir durablement dans un autre État. Mais en pratique, puisqu'on entre en situation régulière et sans contrôle sur le territoire des autres États membres, rien n'empêche de s'y maintenir à demeure. Et vous évoquez les régularisations comme dernier champ d'action du pouvoir politique. Alors ce champ d'action, il est parfois lui-même restreint par les décisions des juges qui peuvent ordonner le réexamen de demandes de titre de séjour. Mais par ailleurs, là où vous avez raison, c'est que l'an dernier, dans une année record pour l'immigration, on n'a jamais accordé autant de titres de séjour en France, les deux seuls indicateurs qui aient baissé sont des indicateurs issus des circulaires Retailleau qui portent précisément sur ces champs-là, régularisation, naturalisation, des baisses légères hein, de l'ordre de 10 à 15%, mais ça montre effectivement que le champ de décision souverain de l'État est de plus en plus ténu.
Je vais laisser la parole à Thomas Morel. Vous avez une question justement pour Nicolas
Oui.
Pouvot-Monty.
Dans ce livre, au-delà du volume et de ce problème effectivement d'immigration massive en France, vous parlez beaucoup de la question économique et on constate que la France, en plus d'accueillir beaucoup d'immigrés, les met très peu au travail, en tire très peu d'effets économiques. Qu'est-ce qui explique ça en fait? Qu'est-ce qui explique que toute cette masse, on n'arrive pas à la faire rentrer sur le marché du travail, à la rendre active?
Oui, alors vous avez évidemment raison. Hein. La France a cette particularité de recevoir l'une des immigrations les moins au travail, les moins en emploi de toute l'Union européenne. On a à peine 43% des immigrés extra-européens récents en âge de travailler qui travaillent. Donc 43%, c'est 25 points de moins que la population générale. Il y a différentes raisons à ça. D'une part, les motifs d'entrée. On a eu ces dernières années une poussée très forte du droit d'asile, on l'a dit, avec des profils qui ne sont pas directement employables. Hein. Près de 60% des réfugiés à leur arrivée en France n'ont aucun diplôme ou seulement un niveau collège de leur pays d'origine. Une immigration très familiale
Et ils
en
parlent pas
France.
forcément la langue en
Ah,
plus.
absolument, absolument. Et ils sont parfois, ce qui est le cas d'une part non négligeable des Afghans, non lecteurs et non scripteurs de leur propre langue, ce qui implique une difficulté supplémentaire pour apprendre une autre langue. Donc une part d'immigration familiale très forte. Hein. Sur 15 ans, quand on regarde les données de l'OCDE, nous sommes le pays d'Europe de l'Ouest qui a reçu l'immigration la plus largement pour motif familial. Donc il y a les motifs d'entrée. À l'inverse, les motifs économiques, c'est vraiment une part très minoritaire de nos flux. C'est à peine 13% des nouveaux titres accordés l'an dernier. C'est d'ailleurs la seule catégorie d'immigration qui est reculée dans une année record pour l'immigration. Alors même que c'est la seule que les responsables politiques assument à peu près explicitement de
Vendent,
souhaiter
ouais.
promouvoir. Donc les motifs d'entrée. Le niveau de qualification, je l'ai évoqué pour les bénéficiaires de l'asile, mais c'est vrai de manière générale. On a plus de 40% des étrangers extra-européens en France en âge de travailler qui n'ont pas de diplôme ou seulement un niveau collège. C'est deux fois plus que parmi les Français. Et puis il y a enfin peut-être aussi un élément lié à la structure géographique de notre immigration. Nous recevons une forte part d'immigrés en provenance de pays à faible indice de développement humain. Donc vous savez, l'IDH, c'est à la fois le niveau de revenu, le niveau d'éducation dans une société, le niveau de santé. Et donc l'économie française se trouve à devoir internaliser, par exemple, les défaillances des systèmes d'éducation dans les pays d'origine.
Mais ça, c'est quelque chose qui est très
Même, ouais.
différent en France par rapport aux autres pays d'Europe, parce qu'on pourrait imaginer que le même problème se poserait partout et que tout le monde aura la même difficulté à faire travailler cette immigration.
Alors, c'est vraiment plus marqué en France parce qu'il y a une conjonction de tous ces facteurs en même temps,
D'accord.
fondamentalement. S'y ajoute le fait que nous avons des modalités de prise en charge matérielle et sociale et sanitaire parmi les plus larges et généreuses d'Europe, notamment pour ce qui concerne ces profils-là d'immigration. Le fait que nous soyons le seul pays en Europe, par exemple, à proposer un hébergement inconditionnel des personnes, quel que soit leur statut de présence migratoire. Vous voyez, on a la moitié des places d'hébergement d'urgence de l'État qui sont occupées par des clandestins, avec une durée médiane de séjour de 3 ans et demi. Donc quand on est le seul pays en Europe à mettre à l'abri pendant des années des dizaines de milliers de clandestins gratuitement et sans limite de durée, il est évident qu'on se flèche pour ces types-là d'immigration.
Nicolas Pouvon-Monty, auteur d'Immigration, mythes et réalité aux éditions Fayard. Je rappelle, chers auditeurs, que vous pouvez écrire, écrire vos questions ou vos observations à l'adresse courriel courtoisie@rc.fr ou par téléphone au 01 46 51 00 85. Il reste une dizaine de minutes pour cela. Donc n'hésitez pas, Vendry de Yerpel, vous avez une question pour notre invité.
Oui, moi il y a un chiffre qui m'a beaucoup marqué, c'est le demi-milliard effectivement de gens qui pourraient demander l'asile en France.
Le demi-milliard.
Le demi-milliard,
ouais,
pardon.
Sur le 2000 milliards.
Non, le demi-milliard. Non, j'ai... Le demi-milliard, je voulais savoir justement quels sont les critères pour que quelqu'un puisse demander l'asile en France. Quels critères il doit remplir?
Alors, ces critères sont multiples. C'est vrai qu'on se fait parfois une idée un peu romantique de ce qu'est le droit d'asile. On pense Kundera, on pense Genitsin, on pense Boat People. Vous voyez, parmi les 70 000 personnes qui ont obtenu l'asile en France en 2024, vous en avez eu deux, littéralement deux sur 70 000, qui l'ont obtenu sur le fondement constitutionnel des étrangers persécutés pour la cause de la liberté. Donc aujourd'hui, l'asile, ça va bien au-delà de ça. Les critères sont multiples. Il y a d'abord ce qui relève de la Convention de Genève, puis du protocole de New York de 67, qui est en fait la même chose, mais étendue au monde entier pour l'éternité, avec une notion de persécution. Donc typiquement, les groupes sociaux à risque de persécution dont nous avons parlé s'additionnent comme des critères successifs qui font que si vous appartenez à ce groupe social, vous avez le droit à l'asile. Il y a évidemment des critères, par ailleurs, qui ont trait à des persécutions liées à la religion, à la nationalité, aux orientations politiques, même si j'y reviens, l'asile des étrangers persécutés pour la cause de la liberté, c'est ultra, ultra minoritaire. Et en plus de cette couche-là, vous avez ce qu'on appelle la protection subsidiaire, qui est une invention du droit européen, et qui est une sorte d'oral de rattrapage du droit d'asile. C'est-à-dire que même lorsque vous ne remplissez pas les critères très élargis du statut de réfugié tel qu'on vient de les évoquer, mais qu'on estime que vous courez quand même un risque si vous rentrez dans votre pays, eh bien on vous donne cette autre forme du droit d'asile. Et mis bout à bout, effectivement, ça donne une situation de vulnérabilité migratoire qui est quand même assez spectaculaire.
Il y a un sujet aussi qui occupe l'actualité, c'est les fameux visas étudiants, puisque le gouvernement voudrait faire payer des frais de scolarité tout simplement en fait aux étudiants. On parle de quelques milliers d'euros, et évidemment on a toute une gauche qui hurle au fascisme, on a toute la pléthore d'arguments que vous connaissez. Comment ça se fait que des dizaines de milliers d'étrangers viennent en France avec des visas étudiants et accès donc au CROUS, à tous les logements, etc. Qu'est-ce que c'est que cette logique et comment ça a pu se mettre en place et surtout dans quelle proportion est-ce que cela se produit?
Alors ça, c'est vraiment le résultat d'un choix politique délibéré et actif qui date globalement du gouvernement d'Édouard Philippe. Depuis 2019, on vit sous le régime de ce qu'on appelle la stratégie Bienvenue en France, qui vise à avoir à tout prix 500 000 étudiants étrangers dans notre pays en 2027, sans vraiment de regard ni sur leur niveau académique. Vous avez les deux tiers des étudiants étrangers en mobilité en France qui ne valident pas leur licence en 3 ans, sans regard non plus, et vous l'évoquez, sur les capacités d'autosuffisance financière. Vous avez plus de la moitié des aides sociales d'urgence des CROUS qui vont à des étudiants étrangers. Vous avez un tiers des places dans les résidences CROUS qui sont occupées par des étudiants étrangers. Et vous avez par ailleurs un phénomène de détournement du canal étudiant à des fins d'installation plus pérennes sur le territoire. L'archétype de ça, ce sont vraiment les étudiants algériens. Vous prenez l'ensemble des Algériens qui ont eu un titre de séjour étudiant une année donnée, vous les retrouvez 8 ans plus tard. 8 ans plus tard, 60% ont toujours un titre de séjour valide en France, dont les deux tiers pour motif familial. Donc voilà, c'est pas la continuité.
Et ils ont eu leur diplôme quand même ou pas, par exemple?
Ça, on n'a pas de
détails. On n'a pas la donnée là-dessus.
On sait que les taux d'échec que je vous décrivais, deux tiers d'échec en 3 ans en licence, sont encore plus élevés pour certaines origines migratoires. Ouais. C'est 75% par exemple pour les étudiants du Maghreb.
Attendez, je reformule juste pour que nos auditeurs comprennent. On a par exemple un étudiant algérien qui vient en France, qui vient pour un visa étudiant. Au bout de 8 ans, on le retrouve. Donc il n'a pas quitté la France après l'obtention de son diplôme, il ne travaille pas forcément vu les statistiques, et surtout il n'a pas forcément eu son diplôme.
Oui, c'est ça, il a eu un titre pour motif familial, c'est-à-dire que l'intégration économique n'a pas été le critère de l'octroi du titre de séjour. C'est sans doute qu'il s'est marié en France, ou qu'il a eu un enfant en France, ou qu'il, en raison des par ailleurs des facilités particulières mises en œuvre pour les Algériens sur l'immigration familiale, l'accord de 68, on y revient, il a pu rester. Et sur l'annonce que vous évoquez, En fait, le ministre Baptiste de l'enseignement supérieur,
oui, Philippe Baptiste,
annonce que l'État veillera enfin à ce que soit fait ce qui était prévu dans la stratégie Bienvenue en France, qui était une très large ouverture migratoire, mais avec une contrepartie qui était des frais d'inscription un peu relevés pour les étudiants extra-européens. C'est 1 500 € en licence, 3 500 € en master, c'est loin de couvrir le coût d'une année d'études, et c'est quand même plus cher que les frais d'inscription normaux. Or, aujourd'hui, et c'est ce contre quoi le ministre veut prendre sa mesure, dans 90% des cas, les étudiants extra-européens qui devraient payer ces frais différenciés ne les payent pas, parce que les universités votent quasi systématiquement des exonérations.
Et ce ne sont pas des conditions d'accueil, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas autorisés à venir une fois qu'ils ont versé cette somme, par exemple.
Non, d'autant moins que beaucoup d'universités les dispensent de verser cette somme par une délibération du conseil d'administration.
Vendredi Garpel.
Oui, ce matin, on a appris qu'il y avait eu une plainte de plusieurs associations qui défendaient les livreurs Uber Eats et Deliveroo. Et en 2025, Médecins du Monde avait fait une étude et avait révélé que 64% des livreurs n'avaient pas de titre de séjour. Je voulais savoir comment est-ce qu'on fait pour endiguer ce phénomène.
Oui, alors là, on touche vraiment à ce que produit notre absence de politique migratoire, c'est-à-dire une nature d'immigration qui n'est souhaitable ni pour l'économie, ni dans une large mesure pour les immigrés eux-mêmes, parce que, vous l'avez dit, hein, les deux tiers d'entre eux sont clandestins, mais par ailleurs, leur rémunération horaire est moins de la moitié de celle du SMIC, leur état de santé est très dégradé. On parle de métiers qui n'existaient pas il y a 5 ans, mais qui effectivement sont maintenant très présents dans le paysage des villes en France. Je dirais que la première chose à faire, c'est d'abord de responsabiliser, pour ne pas dire de sanctionner ces plateformes, parce qu'il y a un état de fait non seulement présent, mais majoritaire de l'immigration clandestine, parmi les livreurs des plateformes numériques de livraison de repas. Et la tolérance de fait des autorités envers cette situation est quand même assez surprenante. Elle est d'autant plus surprenante que l'occupation dont on parle, c'est-à-dire ce métier ingrat et mal payé de livreur à vélo, la même étude menée pour Médecins du Monde par l'Institut de Recherche pour le Développement nous explique que 90% des livreurs à vélo, quand ils seront régularisés, arrêteront. Et en vrai, on peut les comprendre, on regarde ce que ça implique. Mais on parle vraiment d'un moyen de mettre le pied sur le territoire, de substituer, de trouver un moyen de subsistance plutôt bon an mal an pendant quelques mois à quelques années, et puis ensuite on trouve un motif pour se faire régulariser qui est l'un ou l'autre. Donc la première chose à faire, c'est de s'en prendre aux plateformes qui assument de fait d'avoir ouvert un canal d'immigration irrégulière.
Thomas Morel.
Oui, ça fait maintenant des années que l'Observatoire de l'immigration et de la démographie vous parlez de ces sujets. Nous, chez Valeurs Actuelles, ça fait aussi très longtemps qu'on en parle.
Bien sûr.
Qu'est-ce qui explique que ce phénomène, qui est maintenant largement documenté, soit aussi difficile à prendre en compte pour la classe politique ? Est-ce que c'est parce qu'il y a une incompréhension sur ce que c'est que l'immigration, et justement, comme vous le disiez un peu plus tôt, qu'on s'intéresse beaucoup à l'immigration économique et qu'on ne veut pas voir le reste ? Est-ce que c'est qu'il n'y a pas de courage ? Est-ce que c'est qu'en réalité, ce n'est pas possible de réformer ce système ?
Alors, moi, je pense que c'est tout à fait possible de réformer ce système. Quand on n'arrive plus à convaincre les Français que l'immigration telle qu'on la reçoit est une chance, comme on dit, une opportunité, on essaye de les convaincre que c'est une fatalité. Il y aurait de l'immigration, comme il y a de la pluie, du soleil ou du vent, ce serait un phénomène physique, quasiment météorologique, sur lequel le politique n'aurait pas de prise.
Vous finissez d'ailleurs votre ouvrage sur ce terme, la balle est dans notre camp, et vous récusez justement toute tentation de fatalisme.
Absolument, parce que ne serait-ce que dans l'espace européen, on voit que différentes politiques migratoires produisent différents résultats. Un cas qu'on cite souvent, mais à juste titre, c'est le Danemark. En 10 ans, le nombre de demandes d'asile reçues par le Danemark a baissé de 90%, pendant qu'il doublait en France. Pourquoi ? Tout simplement parce que les politiques migratoires efficacement dissuasives du Danemark, qui a voulu faire baisser l'asile, ont réussi. Quant à votre question, qui porte fondamentalement sur les raisons de l'incompréhension ou de l'inaction des politiques, il y a beaucoup de raisons croisées, mais je pense qu'une certaine part de l'expertise officielle, dans laquelle les responsables politiques placent une confiance démesurée, a une responsabilité. On pense à certaines institutions, l'Institut national des études démographiques, l'INSEE dans une certaine mesure, des figures bien connues, François Héran, Hervé Lebras, qui semblent s'être donné pour mission non pas d'éclairer le débat public, mais de le convertir en quelque sorte. Il y aurait une dimension quasiment religieuse. Il faudrait convaincre les Français qu'ils ne voient pas vraiment ce qu'ils voient en matière d'immigration. Et la présence de ce réflexe-là, qui est un réflexe obscurantiste, clairement, elle est très très forte dans les institutions qui sont censées produire la connaissance des autorités. L'exemple typique, c'est le recensement de l'INSEE. Il y a quelques semaines, la campagne annuelle du recensement s'est terminée, et vous avez eu cette année encore une campagne publique des syndicats de l'INSEE pour demander aux Français de ne pas répondre à une question du recensement qui porte sur le lieu de naissance des parents, avec cette idée que ça nourrirait les fantasmes et les préjugés, Alors que c'est l'exact inverse. La connaissance, c'est l'inverse du fantasme, c'est l'inverse du préjugé. Et il y a vraiment une volonté de ne pas voir et de ne pas savoir qui a des conséquences complètement délétères.
De cacher la réalité, tout simplement. Parce que, effectivement, il y a qui dit immigration dit évidemment démographie. Vous vous rappelez des chiffres absolument inquiétants. 67% des naissances en Seine-Saint-Denis ont été issues d'au moins un parent né à l'étranger, tout comme 57% dans le Val d'Oise, 54% en Essonne. Alors c'est pour l'année 2023, et vous comparez avec d'autres départements, seulement 11% en Vendée, 10% en Haute-Loire, ou 9% dans le Pas-de-Calais. Ce changement démographique, il est réel. Alors, on sait que l'extrême-gauche va appeler ça la créolisation de la Nouvelle-France, que Reconquête va appeler ça le grand remplacement, etc. Mais dans l'absolu, il y a un changement démographique majeur qui se déroule en France.
Oui, il y a même un bouleversement démographique qui est absolument rapide et spectaculaire, et qui fait vraiment de l'immigration un fait social total, qui a des implications sur à peu près tous les aspects de notre vie en société. Vous avez évoqué les chiffres pour différents départements, en effet. Au niveau national, on a maintenant plus de 30% des naissances chaque année qui sont issues d'au moins un parent né en dehors de l'Union européenne.
Absolument.
Et ça, c'est évidemment une réalité inédite qui a à voir à la fois avec l'accélération de l'immigration, dont on a parlé, hein, très forte depuis la fin des années 90, mais qui va en s'accélérant plutôt qu'en décélérant ces dernières années. Et on a un autre facteur qui est ce qu'on pourrait appeler la fécondité différenciée de certaines populations immigrées, simplement le fait que certaines femmes immigrées de certains pays d'origine ont en moyenne plus d'enfants que les femmes natives. Quand on voit les données de l'INSEE, l'indice de fécondité, c'est-à-dire le nombre moyen d'enfants par femme des femmes nées au Maghreb et qui vivent en France, est par exemple supérieur de moitié à celui des femmes nées en France, et c'est même le double parmi les femmes nées en Afrique subsaharienne.
Vous citez à la fin de votre ouvrage Pierre Brochand, donc l'ancien patron de la DGSE, qui dit que l'immigration est peut-être le seul facteur qui pourrait vraiment menacer la paix civile, et donc derrière, enfin, on suppose bien quelle menace cela peut susciter derrière. Je suppose cette analyse, et au fond, on serait presque tenté de dire pourquoi est-ce que cette immigration pourrait provoquer pourrait ruiner la paix sociale.
Ben, je dirais qu'il y a plusieurs aspects. D'abord, elle produit cette immigration dans sa forme et dans son ampleur actuelle des effets de saturation sur beaucoup de nos dispositifs collectifs, la santé, l'éducation, le logement. Donc il y a un effet de fardeau, il faut le dire, sur certains de ces champs qui par ailleurs ont une crise endogène. De manière plus fondamentale, le degré de fragmentation culturelle généré par l'immigration avec les phénomènes de diaspora qui se consolident de génération en génération avec des flux qui les alimentent toujours, crée aussi une menace très forte sur la cohésion sociale et risque de nous faire basculer vers ce que Keir Starmer avait appelé pour la Grande-Bretagne une société d'étrangers, finalement étrangers les uns aux autres. Et puis ces diasporas, par ailleurs, pour une partie d'entre elles, elles sont assez largement instrumentalisées par les gouvernements des pays d'origine. Alors, plus ou moins, typiquement, le gouvernement algérien instrumentalise assez mal sa diaspora, qui est pourtant la plus nombreuse en France.
Le gouvernement turc.
Le gouvernement turc le fait de manière très serrée, finalement. Et lorsqu'il y aura, et il pourra y avoir, des moments de tension avec des États comme cela, la mobilisation des diasporas posera une question de souveraineté qui est non négligeable et qui implique, oui, une vraie menace sur la paix civile.
Dernière question, Nicolas Pouvomonti, puisque votre livre connaît un fort démarrage et suscite le débat. Question bête, mais est-ce que vous avez été invité, par exemple, par la presse de gauche au sujet de ce livre ou pas du tout?
Écoutez, le livre fait la une de Marianne aujourd'hui, qui est en kiosque cette semaine, donc c'est une gauche républicaine à l'ancienne, on dirait, mais dont j'en suis évidemment très heureux. Je n'ai pas eu d'autres invitations pour l'instant de la part d'une presse, qu'on pourrait dire, de gauche. Ça m'est arrivé par le passé, si on considère que le service public audiovisuel est de gauche, ce qui est un présupposé que je vous laisse assumer si c'est le vôtre. Mais en fait, il faut réussir à sortir des bulles de filtre sur ce sujet. Et je pense que certains médias, notamment ceux qui sont censés éclairer le plus largement l'opinion, gagneraient à s'ouvrir à des points de vue différents sur cette question.
Voir la réalité en face, Immigration, mythe et réalité, de Nicolas Pouvomonti aux éditions Fayard. Merci d'avoir été avec nous ce soir.
Merci
à vous, Thomas Morel, André Dugarpel. On rappelle l'excellent Valeurs Actuelles de cette semaine, Boc Côté, Confidentiel, tout ce que vous rêvez savoir sur, et ce que vous ne savez pas, ce que vous voulez savoir sur Mathieu Boc Côté, notre essayiste préféré. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir été avec nous. Merci à Vendry de Yerpel et à Thomas Morel d'avoir été présent. Merci à Virginie à la technique, à Frédéric pour les messages des lecteurs, et à très bientôt.
Ça suffit maintenant.